Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.
Et bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode de Dear Veil People. Aujourd'hui, on entame une nouvelle thématique. Après notre première thématique de 2021 sur la sexualité, j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme et de repartir sur la découverte de nouvelles pathologies, nouveaux handicaps qu'on connaît peu et qui méritent autant d'attention. Aujourd'hui, pour commencer cette thématique sur ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Priscilla Camache. Bonjour Priscilla.
Bonjour Damien.
Comment vas-tu?
Ça va, un peu stressé, mais ça va, je vais dire merci.
Et non, ça va bien se passer, je ne peux pas te manger, littéralement d'ailleurs, vu qu'on n'est pas... côte à côte, hein, toujours fameuse mesure sanitaire. Donc, Priscilla, peux-tu commencer par nous dire qui tu es et pourquoi tu es là?
Alors, je m'appelle Priscilla Camache, j'ai 29 ans et je suis ici pour vous parler de la drépanocytose. C'est une maladie également appelée la maladie de la douleur et c'est une maladie génétique rare. C'est d'ailleurs la première en France et... on peut dire que ça peut être SC dite hétérozygote ou comme moi SS dite homozygote. C'est-à-dire qu'on peut être drépanocytaire SS et SC. Et moi je suis SS, c'est-à-dire que j'ai mes deux parents qui ont cette maladie. Elle est génétique mais également héréditaire. Elle est transmissible seulement si les deux parents ont la maladie, sinon l'enfant devient porteur sain.
D'accord. OK. Donc c'est
je peux t'en dire plus sur la drépanocytose si tu en veux.
Donc, tu as gagné le gros lot, si je comprends bien, pour que voilà, tes deux parents aient un allèle malade.
Exactement, c'est des allèles.
Je connais ce genre de bail. C'est le même problème chez moi. Maladie génétique, allèle récessif. C'est quoi la drépanocytose? C'est quoi cette fameuse maladie de la douleur? Quels sont les résultantes, en fait?
En fait, la drépanocytose, c'est une maladie qui affecte l'hémoglobine, une protéine du sang. Donc, du coup, nos globules rouges ne sont pas comme les vôtres. Elles sont sous forme de faucilles, on peut dire sous forme de demi-lunes. Et donc, elles bloquent la circulation du sang, ce qui empêche l'oxygène de circuler correctement jusqu'aux muscles et aux organes, ce qui met parfois nos organes en détresse et entraîne ces douleurs indescriptibles, mais aussi une très grande anémie. Ces crises, on les appelle des crises vaso-occlusives. Elles sont très douloureuses et certaines crises peuvent être plus graves. On peut avoir, lors d'une crise, un syndrome thoracique aigu, en fait, c'est-à-dire une crise qui affecte le poumon et empêche l'oxygénation de tout l'organisme. On peut se retrouver dans le coma ou même pire, mourir de douleur. Parce que oui, on peut mourir de la drépanocytose. Au-delà de la crise aiguë, des crises aiguës, la maladie met l'organisme à mal au fil des années, ce qui entraîne des complications cardiaques, rénales ou encore visuelles. Voilà.
Et donc, malgré toute cette bonne ambiance, est-ce qu'il y a des solutions, des éléments qui permettent de soulager les patients atteints de drépanocytose aujourd'hui, qui permettent de vivre une vie à peu près comme tout le monde, j'ai envie de dire?
Déjà, on ne peut pas guérir de la maladie, à part en faisant une greffe de moelle osseuse, mais ce qui est dangereux, ou une thérapie génétique, mais encore tout ça, c'est vraiment selon les cas. On peut seulement nous soulager, c'est ce qui permet aux drépanos de vivre en quelque sorte comme tout le monde, avec des médicaments à prendre. Qu'on prend tous les jours, en fait, ces médicaments vont permettre de produire ce que notre corps a besoin pour vivre afin d'éviter les crises au quotidien. Et c'est comme ça qu'on peut vivre naturellement. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai aussi un traitement de chimiothérapie médicamenteuse qui m'aide à espacer les crises. Et c'est comme ça que je peux travailler là en tant que service civique pour APF France Handicap. Mais on pour travailler, c'est vraiment compliqué. On peut pas parce qu'on est tout le temps fatigué. Voilà, c'est vraiment pas facile au quotidien, mais il y en a qui
Oui,
le vivent comme tout le monde, comme moi.
au-delà de ces douleurs chroniques, c'est aussi un lot de fatigue chronique,
Oui, voilà,
finalement.
exactement. C'est ça. L'anémie, en fait, est très importante pour une drépanocytaire. Elle est tout le temps fatiguée. Elle a toujours besoin de boire beaucoup d'eau pour pouvoir s'oxygéner. Et du coup, les efforts physiques et le froid, parce que c'est ce qui déclenche nos crises, donc ce n'est pas possible. Donc, au cours de notre vie, on a beaucoup de crises. Moi, par exemple, c'est toutes les semaines, j'ai des petites douleurs quelque part, c'est au bras. C'est musculaire, donc c'est aux os, donc on a super mal, on ne peut pas décrire, c'est comme des poignards, c'est des douleurs indescriptibles, ça fait tellement mal que seule la morphine et l'oxygène, et parfois les échanges et les transfusions sanguins, peut nous soulager, nous atténuer la douleur. En fait, il n'y a que ça qui peut nous atténuer la douleur. Mais des fois, on peut y rester à l'hôpital pendant des mois, il nous faut une hospitalisation, sinon on ne peut pas vivre, et on ne peut pas vivre normalement parce qu'on a tout le temps des pauses où on se retrouve à l'hôpital. Donc, c'est ce qui fait que c'est compliqué pour une trépanocytaire.
Donc, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est par cycle et qu'il y aura toujours des moments où il faudra faire une pause, peut-être une pause à l'hôpital et qu'il faut réussir à rythmer sa vie en fonction de ces cycles.
Oui, mais c'est quelque chose, ces pauses, en fait, c'est pas nous qui les choisissons, c'est par crise. Voilà, donc en fait, il faut vivre, essayer de vivre le plus normal possible en quelque sorte, mais en tenant compte et en donnant à toutes les informations qu'il faut aux personnes qui nous entourent. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai forcé les études, enfin, j'ai continué mes études, j'ai eu mon diplôme il y a un an, j'ai vraiment fini vraiment toutes mes études. Ça a mis un long, ben, j'ai 29 ans maintenant, j'ai mis un long moment pour les avoir parce que j'ai eu beaucoup de pauses où je me suis retrouvée à l'hôpital pendant des mois. Donc, mais il faut pas lâcher. Et je crois que ben, c'est pour ça qu'on nous appelle les warriors. C'est un terme qu'on utilise souvent pour les drépanos parce qu'on est très courageux. La douleur, elle est tellement insupportable qu'on peut. Enfin, si on tient bon, c'est parce qu'on est courageux. On peut se le dire, on est vraiment des warriors. Et c'est comme ça que j'ai fini mes études avec une mention et tout, que j'ai réussi parce que on ne peut pas lâcher en fait. Si on abandonne, on est mort. Donc voilà, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, voilà. C'est comme ça que les personnes drépano survivent en quelque sorte. On se contente de. On vit, mais en survivant en quelque sorte.
Oui, je pense que c'est un sentiment que pas mal de personnes en situation de handicap partagent pour des raisons diverses et variées. Est-ce qu'il y a des associations sur la drépanocytose qui permettent de se retrouver entre personnes concernées et finalement pouvoir discuter avec des gens qui comprennent ce qu'on vit, ce qui est toujours un bon point, je pense?
Alors moi j'en connais pas, je parle pas, je suis plutôt suivie par un psychiatre parce que en plus de la drépanocytose, je suis hypersensible. Donc moi je suis plus suivie par un psychiatre depuis mon adolescence pour comprendre la drépano, pour tout ce qui en suit. Les associations j'en connais pas, mais je pense que il y a la drépanocytose.org. Je crois que c'est Espoir Hope Elikia. Où on peut faire des dons et tout. Mais non, moi, je ne suis pas sur un groupe d'entraide ou quoi. Mais après, il y en a certainement, hein, c'est sûr. Il y a même la journée de la drépanocytose, donc forcément, il doit en exister.
Mais est-ce que toi, personnellement, tu as pu discuter avec ces personnes, d'autres personnes atteintes?
Non, j'ai pas. Mais je sais, sur mon compte Instagram, j'en parle souvent et il y en a beaucoup qui disent que eux aussi, ils ont la drépanocytose, ils vivent comme ça, c'est difficile, courage. Enfin, on s'encourage entre nous, hein, sur les réseaux. Quand, par exemple, je publie un truc sur le fait que je sois à l'hôpital pour, voilà, parce qu'on se sent très seul quand on est à l'hôpital lors d'une crise. Donc, les réseaux sociaux nous aident la plupart du temps à pouvoir parler à quelqu'un. Parce que voilà, on est super protégé en étant à l'hôpital parce que les bactéries, un seul virus pourrait comme le Covid, nous mettrait en danger, très très dangereux. Ça serait très dangereux pour nous parce que c'est quand même respiratoire. Mais et du coup, être à l'hôpital nous permet, enfin, de nous guérir, enfin, nous soulager, mais c'est surtout, ouais, on se sent seul. Donc les réseaux sociaux, ça nous, on peut communiquer dessus, et du coup, il y a certaines personnes qui ont aussi cette maladie, ou pas, hein, d'ailleurs, qui vivent aussi des maladies invisibles, des handicaps invisibles, qui discutent avec nous, et du coup, ça fait du bien. Mais franchement, moi, c'est plus mon psychiatre qui va plus aider, mes médecins aussi. Je suis entourée de beaucoup de médecins depuis mon enfance, donc ça va, je suis bien entourée, j'ai même ma famille et tout. Une drépanocytaire ou un drépanocytaire a besoin d'être entourée, parce que sinon, être seule en étant drépanocytaire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a une crise, on a besoin d'aide. On peut pas être seule, c'est vraiment très dur.
Je vois. Donc ça a créé aussi, on va dire, un souci d'autonomie, entre guillemets, dans le sens où en fait, tu n'as pas le droit, entre guillemets, d'être seul. En fait, si jamais tu as une crise qui peut arriver à tout moment, tu as besoin qu'il y ait quelqu'un avec toi qui puisse prendre soin de toi et qui puisse appeler les autorités compétentes.
C'est pas un droit, c'est un besoin, mais en fait, par exemple, moi, je suis seule, et j'ai pas, si j'ai une crise, je peux appeler, on peut appeler en étant seule, c'est juste que c'est un besoin, et c'est mieux d'avoir quelqu'un, comme ça, au moins, il m'aide, parce que la douleur, elle est tellement insupportable que rien que l'idée de prendre le téléphone et d'appeler, en fait, t'es en train de souffrir. Donc, au téléphone, tu vas juste pleurer et la personne, elle va même pas comprendre ce que tu dis. Donc, la seule chose qu'on fait et qu'on nous apprend d'ailleurs, c'est de dire directement je suis drépanocytaire pour qu'ils comprennent et qu'ils ne perdent pas de temps à expliquer ou quoi que ce soit. Hein. Parce que la maladie, elle est peut-être pas, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est connue dans le service médical. Donc, la plupart du temps, ils savent et du coup, voilà, ils te posent pas et ils viennent directement. C'est automatique, mais c'est un besoin. C'est plus simple d'être à deux, mais après, si tu es seul, tu peux très bien te débrouiller. C'est juste que voilà.
D'accord. Et tu disais donc dans le milieu médical, c'est plutôt connu, donc les médecins savent de quoi tu parles quand on dit drépanocytose. Est-ce que pour toi c'est un bon point ça? Est-ce que ça pourrait pas rendre les choses plus compliquées que les médecins ne connaissent pas certaines partie de la maladie, finalement. Toi, tu sens qu'ils la connaissent assez bien et qu'ils peuvent te permettre, d'aller mieux.
Oui, ce qui est bien, c'est qu'on est prioritaire. On a une carte voilà, de personnes en situation de handicap. On est prioritaire si jamais on arrive aux urgences. En tout cas, voilà, moi, si j'arrive aux urgences de la Péronie, par exemple, je dis que je suis drépanocytaire, je suis en pleine crise. La première chose qu'ils me font, c'est me faire passer devant tout le monde parce que seule la morphine me soulage. Si on n'est pas soulagé à temps, on peut en mourir de la drépanocytose. C'est la douleur, c'est pour ça qu'on appelle la maladie de la douleur, c'est qu'on peut en mourir si on a trop mal, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle mourir de douleur. Donc ils nous prennent en priorité parce qu'ils savent que la drépano est très douloureuse, les crises vaso-occlusives sont très douloureuses. Donc moi, en tout cas, je n'ai pas, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas tr trouvé qui ne connaissait pas du tout, enfin, j'ai pas trouvé quelqu'un qui ne connaissait pas la maladie. Dès que je suis arrivée, on m'a prise à temps. Je dirais que le seul truc, c'est des fois, là, surtout en ce moment, en période de Covid, du coup, même s'ils nous protègent beaucoup, ils sont pas souvent là parce qu'ils sont occupés. Donc, c'est ça qui est un peu chiant. Donc, on se retrouve souvent à être juste soulagé directement, mais pas suivi vraiment jusqu'au bout parce que là, en ce moment, c'est compréhensible. Mais c'est un peu chiant parce que du coup, les autres maladies qui sont aussi dangereuses que le Covid, sont pas très bien suivies, quoi. Voilà, passe pas en premier. Donc voilà. Donc ça dépend des personnes. Des fois, on peut attendre pendant peut-être plus d'une heure pour être soulagé. Donc c'est ça qui est un peu compliqué parce que du coup, on souffre, on pleure de douleur pendant un moment. Mais jusqu'à qu'ils en ont marre de nos pleurs et ils nous mettent la morphine directement. Mais voilà.
Tel le biberon, un bébé, on donne la morphine aux drépanocytaires et ils sont calmés.
Ouais.
On va reparler de la morphine juste après notre pause musicale, cher auditoriste. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le titre de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, qui est, d'après notre invité, la chanson phare d'un film phare de toute une génération, Love Actually. Bonne écoute, chère auditrice.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
On se retrouve pour ce premier épisode d'une nouvelle thématique sur Divide People. Ce mois-ci, je vous propose de découvrir de nouveaux handicaps, de nouvelles pathologies qui ont un impact énorme sur la vie de nos invités, mais qui ne les empêchent pas de vivre et d'avoir des projets et de réussir à avoir des diplômes, même à 29 ans, comme notre invité Priscilla. Ça va toujours, Priscilla?
Ça va beaucoup mieux, je suis moins stressée maintenant.
Ah, bon, et comme ça, on va pouvoir finir en beauté cette émission. Donc, on va continuer à parler de la drépanocytose. Tu as pu nous dire déjà plein de choses lors de la première partie de l'émission. Tu as parlé de la morphine, morphine qui est l'une des seules solutions, si ce n'est la seule solution face à la drépanocytose et à ses douleurs. Est-ce que la morphine crée des conséquences secondaires chez toi? Est-ce que pour toi, ça crée une forme de dépendance ou ça infecte sur ton comportement? Parce qu'on sait que la morphine, bah, c'est pas du doliprane, quoi.
Ouais, c'est pas du tout. Pas...
Et donc, est-ce qu'il y a un impact réellement sur toi, ton comportement et ton quotidien?
Bah déjà, la morphine, en fait, on a trois étapes. Enfin, on va dire plutôt trois étapes. D'abord, on traite la crise vaso-occlusive à la maison avec les antalgiques qui sont les basiques. Enfin, les basiques pour moi, hein, parce que pour les personnes, normalement, vous pouvez pas. C'est plutôt le doliprane. Mais les basiques, c'est le doliprane, certes, mais en fait, pour nous, vu qu'on a l'habitude de médicaments très forts, comme la morphine, ça marche pas souvent. Donc, du coup, on nous ajoute le tramadol. Donc, d'abord, on traite à la maison avec le tramadol, qui est aussi un opiacé. Donc, d'abord, on traite à la maison avec ça. Et si jamais ça ne marche pas, là, on va aux urgences. Et là, on nous administre la morphine. Et la morphine, en fait, vu que les drépanos ont l'habitude de ça, on nous injecte petit à petit pour voir la dose qui nous convient. Et on ne peut pas... En fait, ça dépend. Personnellement, je ne suis pas habituée à la morphine. Je suis pas. Des fois, je fais la blague sur je suis une junkie, mais c'est pas. En fait, on ne peut pas absolument pas être dépendant de la morphine en tant que drépano. Ça dépend des personnes, hein, mais moi, pas du tout, parce qu'en fait, dans ma tête, j'associe la morphine avec la douleur. Et donc, en fait, les drépanos, c'est pas possible. Les seules fois où on va prendre, ça sera pour la douleur. Donc, du coup, automatiquement, moi, ça ne m'a pas créé de problème de dépendance ou quoi. Je ne prends pas ça. Je veux dire, je ne suis pas là tous les jours à prendre la morphine.
Parce tu ne prends pas de la morphine telle des bonbons tous les jours.
Voilà, pas du tout, parce qu'en fait, je l'associe à la douleur. Si j'ai une douleur, là, je prends. Donc, du coup, ça ne m'a pas, ça m'a pas créé de dépendance ou quoi. Par rapport à ça. Donc, ça n'a pas affecté ma vie. Je suis fatiguée et tout, pas pour la morphine, mais parce que ça, c'est dû à ma maladie. Franchement, on associe vraiment la morphine à la douleur. Donc, c'est vraiment ce qui nous sauve. Donc, quand on est à l'hôpital, c'est vraiment ce qu'on demande parce qu'on a mal pour arrêter cette douleur au plus vite. En gros, c'est ça. Donc, ça n'a pas vraiment causé des problèmes pour moi.
D'accord. Et en première partie, tu as pu souvent nous répéter aussi que c'était la maladie de la douleur, qu'on pouvait en mourir. Est-ce que pour toi, c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête ou comment tu le vis, toi, à ce niveau-là? Parce que c'est quand même fort, c'est quand même dur de se dire qu'on a une maladie de la douleur, qu'on peut en mourir, que ouais. c'est quand même lourd à porter. Et est-ce que toi, de ton côté, comment arrives-tu à le porter, justement?
Bah, franchement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à mon entourage. Depuis que je suis toute petite, je suis bien contente. Moi, ma maladie, elle est depuis que je suis depuis bébé, depuis la naissance, on l'a découverte. Donc, ça m'a sauvé la vie en quelque sorte, parce que dès qu'on l'a découverte, j'ai pu venir en France. Et du coup, j'ai été très vite suivie par plein de médecins. Donc, franchement, je suis bien entourée et c'est comme ça que je tiens. On m'a dit déjà dès le départ que ça ne pouvait pas durer, enfin que il y a une durée de vie pour les drépanocytaires. Et voilà, je les ai dépassés. Je suis en forme parce que j'ai vraiment pris mes médicaments vraiment tous les jours. Je suis les traitements, je fais attention. En fait, je pense que si tu suis bien et que tu évites les choses qui pourraient te rendre malade, comme l'effort physique et le froid, ça devrait bien se passer. Après, c'est pas tout le temps, parce que même si je suis, j'ai tout le temps des crises. C'est comme ça, ton corps, le corps humain, et voilà, il t'écoute pas vraiment, hein, il fait ce qu'il veut. Mais il y a aussi le mental. Le mental est très, 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 très puissant, parce que franchement, je sais pas comment j'ai fait pour arriver à rester debout jusqu'ici, parce que il y a vraiment. J'essaye tout le temps de forcer, et je me suis souvent retrouvée à l'hôpital à cause de ça. Donc, je pense que le mental joue beaucoup, et d'être entourée. Donc, j'ai pas vraiment une épée de Damoclès parce que je me dis toujours, si je fais une crise, j'en ai déjà vécu plusieurs et je m'en suis sortie. Ouais. Là encore, je suis failli passer et on m'a donné un traitement de chimiothérapie médicamenteuse qui devrait m'aider à espacer les crises au quotidien. C'est un essai clinique, donc voilà, comme tout essai clinique, on va voir si ça marche. Donc, j'ai pas vraiment d'épée de Damoclès parce que voilà, je suis forte. Voilà, je sais très bien que ça va bien se passer. Les douleurs sont dures, certes, mais je sais que je suis forte. Voilà, je suis courageuse, donc ça va. Je le vis bien, ça va.
Et pour finir, est-ce que avoir une drépanocytose, ce genre de maladie, ça a un impact sur l'aspect social, sur les rencontres avec les gens? Et comment tu en parles, comment tu abordes le sujet et comment les gens réagissent aussi finalement quand tu parles de maladie de la douleur et qu'on peut en mourir?
Ah oui, beaucoup, ça a un impact, beaucoup parce que... Des fois, déjà à l'école, j'étais souvent à l'hôpital, hospitalisée. Donc, du coup, c'est dur de se faire des amis fidèles parce que ouais, les hôpitaux, il y en a certains qui détestent. Je suis un peu la fragile, la maladive. Donc, c'est un peu compliqué pour se faire des amis quand tu n'es pas tout le temps là. Pour les devoirs à la fac, c'est pour les devoirs en groupe, c'est compliqué parce que du coup, on ne veut pas trop te donner parce que on ne veut pas te fatiguer. On ne veut pas trop te donner parce que si tu es à l'hôpital, du coup, il y a trop de choses. On ne veut pas se mettre en groupe avec toi. À cause de ça, parce que t'as trop, enfin, t'es pas souvent là, donc il y aura trop de choses à faire après. Bref, c'est vraiment compliqué niveau social et tout, mais moi j'ai eu de la chance sur ce côté-là parce que je suis sociable, j'ai tout le temps le sourire et tout, je pense que ça m'aide. Et du coup, j'ai des amis voilà, qui est mon point fort et qui m'aident depuis que je suis ado. Ils sont toujours là. Quand je suis à l'hôpital, ils viennent me voir. Donc ça va. En fait, il faut vraiment se créer un cocon d'amis fidèles. Et du coup, ils restent et ils te suivent. Ils savent que tu es malade, donc si jamais il y a des sorties et tout, ils s'adaptent. Bon, des fois, tu te sens un peu... Enfin, c'est un peu chiant parce que du coup, on dirait que tu les... Voilà, tu changes des trucs par rapport à leur vie. Alors, ça a un impact pour eux aussi. Mais bon, c'est avoir des amis qui ont un handicap, c'est comme ça. Enfin, voilà, ça ne change pas. Un handicap ne définit pas la personne. Donc, je pense que mes amis l'ont compris et ma famille, donc tout ça. Donc, je me suis bien entourée. Et je crois que l'impact le plus marquant, c'est quand on est trop longtemps à l'hôpital, on revient. Après, c'est un peu différent. Et aussi, ils ne connaissent pas la maladie. Donc, quand j'en parle, en fait, le truc, c'est qu'on t'oblige à en parler. Parce que quand tu es à l'école ou quoi, quand tu es dans une formation, peu importe, tu es tout le temps fatigué. Donc, les gens, ils croient que tu fais la fête tard, la nuit, là-bas, la soirée. Tu as fini tard, enfin, que tu sors tout le temps. Et voilà, visuellement parlant, j'ai un handicap invisible. Donc, quand on me voit comme ça, sourire tout le temps, la joie de vivre, on se dit, elle n'est pas malade. Donc, elle est en train de faire semblant. Enfin, souvent, les gens, c'est ce qu'ils croient. Hein, pour les trépanos, c'est elle fait semblant. C'est pas possible qu'elle soit aussi tout le temps à l'hôpital comme ça. Enfin, les cris sont aussi douloureuses que ça pour qu'elle crie autant, des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est compliqué pour en parler. Moi, personnellement, j'en parle souvent aux personnes qui me côtoient parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire. Par exemple, là, à cause du Covid, je suis en télétravail, je suis pas là tout le temps. Et parfois, moi, je me sens mal à l'aise par rapport à ça, parce que du coup, je suis pas souvent là, alors que je suis en service civique. Enfin, il y a des petits trucs comme ça, mais après, la santé est prioritaire. Donc, vraiment, par rapport aux gens, j'essaie d'en parler, mais je dis le minimum. Je dis ce que c'est, le pourquoi.
Oui, comment, peut-être ceux qui sont capables d'entendre aussi.
Ouais, voilà, exactement, parce que c'est pas tout le monde. Quand tu racontes, les gens, ils se disent, bon, ok, déjà, par exemple, voilà, moi, à l'école, c'était plutôt, Priscilla, elle est malade, hein, elle ne sera pas tout le temps là, t'es obligée de le dire, voilà, c'était comme, elle dort tout le temps, en cours, je la vois, elle dort, je suis désolée, mais je suis fatiguée, en fait, je ne dors pas, je somnole, je suis tout le temps fatiguée, je ne peux pas rester trop longtemps debout. Il y a des trucs que je ne peux pas porter. Enfin, il y a des petits détails comme ça. C'est rien pour tout le monde, mais pour le trépano, les gens, ils se disent...
Comme a dit une grande chanteuse française, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Ouais. Voilà, exactement. Donc, voilà, parfois, c'est compliqué d'en parler. Et moi, le seul truc que je sais que je vais devoir en parler et que je vais aller dans les détails, c'est quand je serai avec mon conjoint un jour. Mais sinon, pour les autres, je rentrerai jamais dans le détail parce que en soi, J'en ai plus, j'ai rien à prouver, j'ai plus besoin de me justifier sur chaque détail. Je leur dis ce que c'est, je dis pourquoi, du comment, et après j'arrête là. Voilà, ça se passe comme ça parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas tout expliquer. Et je ne sais pas, moi, la drépanocytose, c'est très compliqué à rentrer dans les détails. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit hétérozygote, homozygote. Tu ne savais pas de quoi je parlais, non, Damien?
Oui, non, pas tout à fait. Je pense que nos chers, nos auditoristes ne sauront pas non plus. Mais je pense que, comme toute maladie, c'est quelque chose dont il faut apprendre à vivre au quotidien et qu'on ne peut pas réellement expliquer de manière directe aux gens. Et en une minute, c'est quelque chose qui se veut au quotidien, petit à petit, où on voit de nouvelles choses, qu'au final, on se rend compte que ne pas pouvoir rester debout longtemps, ben, une fois, c'est bien, mais quand c'est toute une vie, ben, on se rend compte que, ah ouais, c'est quand même compliqué.
Ouais.
Et sur ce, ça sonne déjà la fin de notre émission, Priscilla. Je te remercie de ton partage.
Merci à toi.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir à nouveau écoutés à Dear White People. J'espère que cette émission vous a plu, d'avoir découvert cette nouvelle maladie qu'est la drépanocytose et l'impact qu'elle peut avoir sur les personnes concernées. La semaine prochaine, on va virer de bord et parler de tout autre handicap, puisqu'il s'agira du trouble de l'attention avec hyperactivité, avec un invité que vous connaissez déjà et qui revient à nouveau pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine, chers auditeurs, prenez soin de vous.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.